BW. Droits et libertés.
Le dernier rapport de l'Organisation mondiale contre la torture parle de l'usage de la force qui est excessif dans certaines circonstances, la force à laquelle recourent les forces de police par exemple. Et on en parle cette semaine avec Yolanda Jacquemet de l'OMCT, Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. Yolanda Jacquemet, bonjour. Vous êtes donc membre de l'Organisation mondiale contre la torture, l'OMCT.
Bonjour Sandrine.
Dans votre dernier rapport, vous parlez de l'usage de la force hors détention, s'apparentant à de la torture ou à d'autres mauvais traitements. Alors ma première question, existe-t-il une définition internationalement admise de la torture qui puisse donc faire foi devant les tribunaux internationaux, par exemple?
Cette définition existe. Elle se trouve dans la Convention des Nations Unies contre la torture, qui a été adoptée en 1984. Cette définition dit que la torture est un acte qui cause une douleur ou des souffrances aiguës, qui peuvent être physiques, mais aussi mentales, et qui sont intentionnellement infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel. Cela dit, ces dernières années, la définition s'est également étendue, par exemple, aux groupes armés non étatiques. Il est aussi très important de souligner que la vaste majorité des États sont partis à cette convention, 170. Mais la pratique est tellement dévastatrice qu'elle est universellement interdite. Autrement dit, même si le pays où vous vous trouvez n'est pas parti à la convention, personne n'a le droit de torturer. L'autre pratique qui était également rejetée par la communauté des nations, c'est l'esclavage.
Depuis l'apparition de la COVID-19, vous constatez une hausse des violences dans le monde exercées par les forces publiques chargées de faire respecter la loi. Vous dites même que ces violences atteignent un niveau inquiétant. À quoi est-ce que c'est dû? En quoi est-ce que la pandémie favorise-t-elle ce recours à la violence d'État?
On peut mettre en avant deux facteurs. D'un côté, dans des pays à la démocratie fragile, les forces de l'ordre qui se sentent les pleins pouvoirs pour littéralement sévir contre la population sous couvert d'urgence sanitaire. On le voit par exemple aux Philippines, où des enfants ont été mis dans des cages à chiens comme punition pour avoir violé le couvre-feu. On l'a vu aussi dans une série de pays africains où ce qu'on appelait les couvre-feux à la matraque étaient répandus, où des citoyens ont été donc battus, humiliés publiquement, voire tués, pour la simple raison d'avoir violé le couvre-feu. C'est encore pire lorsque l'armée, dans des pays pas très démocratiques, est chargée du maintien de l'ordre. En deuxième lieu, ce qu'on observe, c'est que des États autoritaires utilisent délibérément l'urgence sanitaire pour s'en prendre à leurs opposants, pour s'en prendre aux défenseurs des droits humains, bref, contre tous ceux qui dérangent. Par exemple, on a vu en Asie centrale que le simple fait de parler de la pandémie, dont le gouvernement niait l'existence au début, amenait des gens en prison. On a vu aussi certains pays plus démocratiques qui en ont profité pour repousser les élections, puisque cela arrangeait les gens au pouvoir.
Dans son rapport, l'OMCT cite également la discrimination généralisée à l'encontre des personnes d'origine africaine. Alors comment est-ce que cette discrimination se manifeste-t-elle?
On le voit en effet, par exemple, aux États-Unis, où la violence des forces de l'ordre contre les Africains-Américains est vraiment systémique. On pense tous évidemment à l'exemple de George Floyd en 2020. Mais pensons aussi à la Chine, qui en avril dernier s'est mis à ouvertement discriminer contre des étudiants africains qui ont été chassés de leur foyer et mis à l'index parce que, soi-disant, ils étaient la source du Covid-19, ce qui était particulièrement ironique. Pensons à Paris, où récemment, le producteur de musique Michel Zecler, qui est noir, a été battu par la police pour simplement ne pas avoir porté un masque. Mais enfin, il faut aussi dire que plus largement, la brutalité policière se manifeste très souvent contre les pauvres, contre les exclus, contre les marginalisés. C'est déjà le cas dans des circonstances normales. C'est pire encore avec la pandémie. Du coup, au lieu que la police soit vue comme un service à nous tous, elle devient un outil utilisé par les puissants pour contrôler les quartiers populaires. Là aussi, on l'a vu en Afrique, en Amérique centrale ou en Asie. En Europe aussi, si vous êtes d'une autre couleur, si vous êtes roma, si vous êtes migrant, vous risquez bien plus d'être maltraité.
Dans toutes les sociétés contemporaines, ou presque, il existe une ou plusieurs forces constituées qui sont dépositaires d'une violence qui est considérée comme socialement légitime, c'est-à-dire qui est acceptée par la communauté. En l'occurrence, il s'agit souvent de la police ou de l'armée. Comment protéger la population d'un recours excessif à cette violence? Dans quel cas est-ce qu'on estime que le recours à la force par la police, par exemple, est abusif?
Ce recours à la force devient abusif lorsqu'il est manifestement disproportionné par rapport au but recherché et par rapport au danger éventuellement posé par la personne qui fait la cible de cette violence. Concrètement, si vous êtes en train de manifester pacifiquement, si vous êtes simplement hors de votre domicile durant un couvre-feu, vous pouvez éventuellement être mis à l'amende si la législation le prévoit. En aucun cas, vous ne pouvez être battu, attaqué au gaz lacrymogène, voire abattu avec une arme à feu, puisque vous ne posez pas de danger grave à qui que ce soit. Il en va de même pour une personne qui traverse une frontière, même si celle-ci le fait de façon irrégulière.
Et qu'est-ce qui encadre la force exercée par les pouvoirs publics?
Il est bien sûr important d'avoir une législation qui respecte les droits humains et qui définit de manière très claire les règles de la proportionnalité et ce que c'est qu'un danger imminent. Mais c'est aussi important que les législations d'un pays respectent le droit international qui prévoit que protester de manière pacifique est un droit que nous avons tous. Cela dit, au-delà des lois, tout est aussi affaire de volonté politique. Tout est surtout affaire de volonté politique. Ce que nous voyons en pratique, c'est que dans les pays où la violence policière n'est pas isolée, mais fait partie du système, c'est que les plus hauts échelons de l'État soit tolèrent cette violence, soit en fait ils l'utilisent délibérément contre certains secteurs de la population. Et c'est là que le rôle de la société civile est important. Or, durant la pandémie, les ONG ont été confinées à la maison comme tout le monde, les tribunaux ont été beaucoup moins actifs. Du coup, il y a eu beaucoup moins de supervision sur les agissements des forces de l'ordre.
Est-ce qu'il y a quand même des bons élèves ou, à contrario, des États qui se sont particulièrement distingués ces derniers mois par un recours abusif à la force?
Je dirais que les bons élèves sont déjà ces États qui n'ont pas profité de la pandémie pour augmenter les pouvoirs de la police. Ces États qui autorisent la société civile à être présente lors des manifestations pour porter un regard extérieur sur les actions de force de l'ordre. Un autre bon exemple est la Colombie. En septembre de l'année dernière, la Cour suprême a ordonné à l'État de respecter le droit à manifester pacifiquement et elle a surtout interdit à la police d'utiliser une arme de calibre 12 qui avait tué et blessé nombre de manifestants. Donc ça montre qu'une justice indépendante est importante. Et ça montre aussi qu'une société civile forte est importante. Dans le cas de la Colombie, la Cour suprême avait été aidée dans ce jugement par de l'information fournie par des ONG de droits humains, dont un des partenaires de l'Organisation mondiale contre la torture.
Et comment faire alors pour préserver l'intégrité des personnes, y compris lors de rassemblements ou de manifestations?
Il est important que le recrutement dans les forces de l'ordre soit un recrutement de qualité. Et il est important que ces forces de l'ordre reçoivent une formation technique au contrôle des foules ou des individus violents d'une manière qui respecte autant que possible leur intégrité physique. Mais ce qui est tout aussi important est une volonté claire et qui est clairement communiquée par la hiérarchie que la brutalité gratuite ne sera pas tolérée. Dans le cas contraire, quand on voit que des agents utilisent une violence gratuite et qu'ils restent impunis, eh bien, on envoie le signal opposé. On envoie le signal qu'il est possible de battre, de violer, de tuer des citoyens sans en payer le prix. Et cela crée évidemment un cercle vicieux où ceux qui sont supposés nous protéger deviennent une source de terreur. Bref, il faut parfois changer les structures et les cultures institutionnelles. Dans une démocratie, le droit à la manifestation est une source de fierté. Dans les pays autoritaires, les manifestations sont vues comme une menace. Et du coup, la police agit en conséquence.
Vous dénoncez aussi en temps de Covid le manque de protection des personnes les plus vulnérables, d'où ces deux questions. D'abord, qui sont ces personnes les plus vulnérables et comment les protéger ?
Un exemple de personnes vulnérables, ce seraient les femmes enceintes, les enfants, des personnes à la santé fragile. Par exemple, lorsque vous utilisez des substances chimiques dangereuses à grande échelle pour disperser une manifestation pacifique et vous arrosez tous ceux qui passent, voire même des gens qui sont simplement dans leur maison, il y a un risque réel. Par exemple, des gaz lacrymogènes concentrés dans un espace confiné peuvent causer des dommages à la santé très graves, voire tuer. En plus, ce qu'on a observé durant l'année écoulée, c'est que l'usage de ces substances chimiques à grande échelle contre une foule, en réalité, répand le virus de la COVID-19. Donc, en fait, ça devient un danger pour la santé publique.
Et enfin, quels instruments existent pour protéger et quels recours pour les personnes qui ont été victimes de torture ?
Un instrument important pour la protection contre la torture, c'est évidemment l'existence de bonnes lois. Tous les pays n'ont pas une bonne législation nationale contre la torture. Un autre élément important est effectivement une société civile forte qui puisse porter un regard indépendant sur les abus et les dénoncer, et évidemment un pouvoir judiciaire indépendant qui puisse faire arrêter, condamner des policiers ou des militaires, des forces spéciales qui auraient violé la loi. Toutefois, évidemment, lorsque les autorités ne veulent rien faire, il y a aussi des juridictions régionales ou internationales. Par exemple, les États-Unis ou la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous-mêmes, à l'Organisation mondiale contre la torture, nous avons porté plusieurs cas de torture devant cette Cour avec nos partenaires africains et avons gagné un certain nombre de cas.
Yolanda Jacquemet de l'OMCT, merci beaucoup.
Merci encore pour l'opportunité.
C'est la fin de ce magazine. Vous pouvez podcaster Droits et Libertés en vous rendant sur notre site internet dw.com/français à la rubrique Nos podcasts. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.